Bonjour Séverine Besson,
Bonjour Manila.
chercheuse, entrepreneure dans le domaine de l'organisation apprenante. Je me réjouis de pouvoir passer un petit moment avec vous et de vous interroger sur la transformation.
Plaisir partagé.
Et on parle de comment on va apprendre en 2030 et j'aimerais en fait avoir votre point de vue en tant que chercheuse spécialiste de l'organisation apprenante à ce sujet. Qu'est-ce que pour vous la transformation?
La transformation de l'apprentissage. Alors 2030, on se le disait, c'est demain, hein. Donc qu'est-ce qui est déjà en cours qui va perdurer et qu'est-ce qui n'est peut-être pas encore arrivé qui devrait arriver? Ce qui est déjà en cours et qui devrait perdurer, c'est qu'en fait, la circulation de la connaissance et de l'expérience, elle est en flux continu maintenant dans tout le monde, auprès de tout le monde, à tous les niveaux dans l'organisation. Avant, c'était plutôt très structuré, on était beaucoup sur l'apprentissage assez formel, formalisé. Je trouve qu'aujourd'hui, l'informel a tellement pris le dessus. Rappelez-vous, j'ai parlé des 9 situations d'apprentissage et on a une situation sur la formation formelle. Mais aujourd'hui, quand on dit formation, ce n'est pas forcément que du formel, c'est aussi de la forme action. Pour moi, on est aussi dans l'apprentissage en faisant, en travaillant, en expérimentant et la formation devient forme action.
Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, en fin de compte? Vous dites formation, mais en entreprise, qu'est-ce que cela, comment c'est traduit en fin de compte?
Eh bien, il y a des pratiques apprenantes que j'ai observées qui existent un peu de fait, mais pas tellement conscientisées. Et les organisations essaient de se dire, ou moi j'essaie de leur révéler, regardez un peu les pratiques que vous avez qui sont apprenantes, vous n'en avez pas conscience. Est-ce qu'on peut essayer de conscientiser et d'explorer toutes les pratiques que vous menez pour transmettre de manière formelle et informelle, et d'en faire des rituels, de passer de l'extraordinaire, le ponctuel, à des rituels. Et après, aller jusqu'à la forme action si on se rend compte qu'il y a des pratiques qui peuvent être du coup développées.
Comment ça se traduit chez vous en termes de ressenti quand vous allez donc en entreprise et puis que dans un cas où l'entreprise va chercher un peu, on va dire, l'incompréhension de votre démarche et comment vous vous faites pour, on va dire, rentrer dans cette entreprise pour pouvoir mettre votre touche et modifier ce comportement par rapport à cette connaissance en fait.
Votre question est clé parce qu'effectivement, tout part de la culture de l'entreprise, de l'organisation au sens large. Si on n'a pas cette culture d'ouverture, je l'évoquais un peu ce matin, si on n'a pas cette culture d'ouverture, de curiosité, en fait, tous les ingrédients de l'apprenance au sein même de la culture d'entreprise, ça ne marche pas. Et vous l'évoquez, oui, il y a des gouvernances qui sont réfractaires parce qu'elles ont peur du changement, elles ont peur de ce que ça peut faire émerger. Souvent, celles qui sont réfractaires, c'est celles qui sont assez attachées à la hiérarchie, celles pour qui le savoir, c'est le pouvoir, et donc on ne doit pas trop diffuser tout ça. Heureusement, on a plein de types d'organisations qui sont très ouvertes à tout ça et qui ont cette culture, ce mindset, vraiment ce learning mindset qui est présent, cet état d'esprit d'apprenance avec tous ces ingrédients du droit à l'essai explicité. C'est ce que je leur dis. Mais bien sûr que mes collaborateurs, ils peuvent essayer. Mais est-ce que vous leur avez dit? Dans quel cadre? Non, mais ça paraît logique. Ah non. En fait, ce qui n'est pas exprimé, autorisé, ça ne paraît pas logique aux collaborateurs. Donc, comment ce droit à l'essai, on peut le rendre un peu plus public et encourager les gens à être force de proposition?
Comment est-ce que vous intégrez une entreprise? Comment est-ce que vous êtes accueilli par les collaborateurs? Non pas par la hiérarchie, hein, et la gouvernance, mais vraiment par les collaborateurs quand vous arrivez en disant, ben voilà ce que nous allons faire ensemble.
J'ai les sceptiques, j'ai les curieux, j'ai les fougueux qui ont vraiment envie d'essayer des choses. Alors c'est très très drôle parce qu'il faut faire cohabiter toutes ces populations, faire en sorte de réguler les fougueux et révéler les sceptiques parce qu'au fond d'eux, ils aiment apprendre. Mais ils sont sceptiques sur la méthode. Donc l'idée c'est de leur montrer qu'il y a une nouvelle méthode qui peut émerger, mais qu'eux-mêmes peuvent proposer des nouvelles méthodes de transmission. Donc on fait appel à, on l'évoquait ce matin sur les émotions, qu'est-ce qui t'a donné plaisir à un moment quand tu as appris? Et comment tu pourrais dupliquer ça chez toi? Quelles pratiques nouvelles tu pourrais susciter pour mettre le plaisir au cœur? Donc les collaborateurs, ils m'accueillent plutôt bien, souvent parce qu'on est sur du volontariat aussi. On ne va pas forcer les gens à expérimenter des choses qu'ils n'ont pas envie d'expérimenter. Et je suis agréablement surprise de voir émerger des pratiques nouvelles à chaque fois, sur des modes de faire. Encore ce matin, sur les laboratoires que l'Arfor a lancés, j'ai des choses incroyables qui ont émergé. J'ai hâte de restituer.
Ça, c'est top. Maintenant, c'est vrai que vous parlez de différents comportements hein, que vous avez en formation, mais concrètement, ça se traduit comment? Parce que vous dites, oui, il y a cette soif d'apprendre, cette envie. Certaines fois, il y a aussi des barrières que les collaborateurs se mettent. Comment ça se traduit concrètement, en fait, sur le terrain?
On va identifier très vite des sujets à enjeu, des sujets qu'il faut faire circuler, de la connaissance, de l'expérience, une expertise clé qui vient d'arriver. Peut-être que l'un d'entre eux détient, mais pas les autres. Donc, à partir de cet enjeu-là identifié, on va mettre en expérimentation de la transmission. Qui est l'expert ici qui a envie, ou une personne juste expérimentée sur un sujet qui a envie de transmettre? Et les collaborateurs se mettent en mouvement pour recevoir, et on les met ensemble pour apprendre entre pairs, pour avoir des pratiques de transmission, de feedback. Voilà. On va mettre en route des pratiques qu'ils vont mobiliser entre eux et pour voir très vite que ça fonctionne, en fait.
Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que là, on parle de l'entreprise. Alors, c'est vrai que moi, je vais faire un transfert sur l'Arfor parce qu'on a la même démarche. Hein. C'est quand même, on va dire, une association où il y a un comité, où le fait, en tant que nouvelle présidente de cette association, c'est aussi de faire émerger tout ça et de leur donner également les outils, les pistes pour pouvoir mettre en place d'autres choses. Et c'est vrai que quand je vous entends de dire, on a des experts, de les mettre en avant, de partager aussi tout ça pour qu'ils puissent, s'éclater aussi dans tout ce qu'ils ont à faire. Surtout que quand on parle d'associations en Suisse, on est beaucoup de bénévoles.
Il y a beaucoup le storytelling qui rentre en compte. Les gens chez qui on va aller chercher une expertise, un savoir agir qui lui est propre, on va lui demander de raconter ça. Et là, on embarque les collaborateurs. Ça nous remet un peu en enfance où on avait le conteur qui nous emmenait dans son histoire. Et bien là, on n'est pas dans l'imaginaire, on est dans notre vie réelle. Pour autant, on a quelqu'un qui sait raconter, qui a envie parce qu'il est mobilisé par le succès qu'il a vécu, l'enthousiasme qu'il habite. Et c'est contagieux, cette émotion, elle est contagieuse. Donc c'est merveilleux quand je vois des groupes qui s'installent et qui sont dans ce storytelling et qui le vivent. Tout à l'heure, dans le groupe de ce matin du laboratoire, merci Lafor pour ces belles idées de laboratoire. J'ai des superbes idées qui ont émergé autour de comment faire un chaos organisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, j'ai envie d'apprendre là, maintenant, tout de suite, parce que ça va m'être utile. Oui, c'est pas prévu. Oui, on n'a pas le temps pour ça, mais on va le prendre et on va laisser la place. C'était génial. Donc, en fait, quand on laisse la place aux collaborateurs, il y a de l'émergence incroyable qui arrive.
Maintenant, j'ai une dernière question. Si maintenant, vous deviez vous projeter en 2030 et vous regarderiez en arrière en disant, tiens, c'est quoi la transformation qui est arrivée?
Moi, je crois beaucoup à ce que j'évoquais sur les personnes sont des beaux portefeuilles de capacités, de compétences, de qualités, d'ouverture, et d'arrêter de les regarder comme des fonctions, des rôles, des missions. Pour moi, 2030, 2040, ça serait on me regarde par rapport à ce que je suis et ce que je sais faire, mon savoir agir plus que mon savoir tout court. Parce que ce savoir agir, il va mettre en action la personne, l'équipe et l'organisation. Et voilà, moi j'aimerais bien qu'on soit dans ce savoir agir plus que ce savoir-savoir-faire.
Un grand merci Séverine Besson de cet entretien et de cet échange.
Merci Melnila pour cette invitation et tout ce moment que nous vivons aujourd'hui.
En tout cas, à tout bientôt.
À tout bientôt.
Merci.